Ce soir, nous allons partir d'un verset, d'un conseil. Vous savez comment on l'appelle, le Seigneur ? Comment Ésaïe prophétise la venue du Seigneur Jésus ? Vous vous rappelez comment il prophétise ? La Vierge enfantera un fils et on l'appellera conseiller, Dieu puissant, prince de la paix, admirable, Père éternel. Donc, Dieu doit être notre conseiller. Dans le psaume 16, je vais vous donner plusieurs textes et je vous inviterai chez vous à méditer ces psaumes. Dans le psaume 16, si je ne m'abuse, David exprime sa joie. Pourquoi ? Eh bien, il y a un secret. Regardez bien, psaume 16, verset 7. C'est un verset qui pourrait nous aider beaucoup, vraiment nous aider. Regardez ce qu'il dit. Psaume 16, verset 7. « Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. » Est-ce que vous faites partie de cette catégorie de chrétiens qui, lorsqu'ils se réveillent la nuit, lorsque le matin ils se réveillent, de suite, la parole de Dieu vient sur votre cœur, un cantique, et sur votre cœur, heureux êtes-vous si dans la nuit, votre cœur vous exhorte, si dès que vous vous éveillez, eh bien, vous avez le réflexe de méditer la parole de Dieu. Nous avons besoin de conseils. Dans le psaume 73, nous voyons cette vérité. Asaph traverse un moment difficile. Vous savez qu'on a tous des épreuves, des moments de doute. Asaph est un homme qui a été choisi par le roi David. Il est parti de rien, il est arrivé à être jusqu'à un prophète. Mais il a passé un moment difficile alors qu'il était responsable de la chorale de Jérusalem. Et à un moment donné, alors qu'il va rentrer dans le sanctuaire de Dieu, il va faire une expérience, il va l'exprimer au verset 23 du psaume 73. Regardez, c'est quelque chose de très fort quand on réfléchit à ce que je vais vous dire. « Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras par ton conseil. » Voilà les hommes qui ont été avec Dieu, des hommes qui ont fait des progrès. Il y a des gens qui régressent, il y a des gens qui rétrogradent. Une partie de nos prières a été basée sur les fils prodigues parce que nous souffrons et nous sommes affligés de voir des gens qui abandonnent Dieu. Mais il y a des gens qui, au contraire, font des progrès. Pourquoi ? Eh bien, parce que, comme nous venons de le lire dans ces deux textes, il y a un respect profond pour les conseils parce que le nom de notre Sauveur s'appelle également conseiller. Dans une véritable église, il n'y a pas de gourou qui dirige, qui font du conditionnement, qui manipule les gens. Le Seigneur ne l'a jamais fait. Le Seigneur donne des conseils. Comment acceptez-vous les conseils du Seigneur ? Vous savez, quand Ésaïe dit « Oh, mais si tu étais attentif à mes commandements », c'est pareil que s'il était écrit « Si tu étais attentif à mes conseils, ton bien-être serait comme un fleuve. » Et beaucoup de gens n'acceptent pas les conseils. Dans le proverbe, c'est dans le proverbe premier, regardez comment ça change de registre dès qu'on lit certains textes. Le proverbe premier, voyons, on le voit, c'est terrible ça. Proverbe chapitre 1er, voyez, verset 28, regardez comment on change vite de registre. Hein. Proverbe 1, verset 28, « Alors ils m'appelleront, je ne répondrai pas. Ils me chercheront, ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science, pas la science biologie, la connaissance, hein, et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont pas aimé mes conseils. » Voyez, ils n'ont pas aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voix, ils se rassasieront de leurs propres conseils. C'est dans le psaume 107 aussi, on l'a lu l'autre jour, où il y a ce mépris des conseils du Seigneur. Et que nous le voulions ou non, nous sommes dans un de ces deux cas où nous avons beaucoup de joie pour les conseils de Dieu, où nous les méprisons. Psaume 107, voyez, on l'avait lu l'autre jour, alors c'était au verset 10 et 11. C'est bien que vous les notiez, que vous compariez pour que vraiment nous soyons sérieux avec la parole de Dieu. Trop de gens sont légers avec les choses de Dieu. Ils en rient. Psaume 107, verset 10. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Il parle de croyants, là. C'est le peuple de Dieu, il ne parle pas des païens. Hein. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Donc, voyez, on pourrait prendre des textes de cette façon et dire, voilà, ceux qui aiment les conseils, tu me conduiras par ton conseil. Il y a des gens, peut-être que la majorité d'entre vous, vous êtes là parce que vous dites, mais Seigneur, je veux que tu me conduises. J'aime tes conseils. Tous tes conseils sont bons. Et vous voyez bien que le peuple de Dieu a méprisé les conseils. Et le résultat, c'est que ça crée beaucoup de légèreté et beaucoup de chrétiens ne seront pas prêts parce qu'ils n'écoutent pas les conseils de Dieu. Mes frères et sœurs, nous sommes dans des temps très difficile. Ça ne veut pas dire impossible. Avec la grâce de Dieu et le Saint-Esprit, nous pouvons vivre les temps difficiles dans la paix, dans le repos, dans la grâce. Vous le croyez, ça, qu'un chrétien peut vivre dans le pardon, dans la paix? Oui, mais ce sont des temps difficiles. Ces temps vont empirer, comme les douleurs de la femme enceinte s'accélèrent. Ces temps difficiles vont s'accélérer jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Et même après l'enlèvement de l'Église, ils vont décupler. Ça va être quelque chose d'exponentiel. On en a parlé dimanche. Dieu voulant, on en reparlera encore dimanche, parce que la colère de Dieu vient et il faut que les chrétiens, nous comprenions quels sont les conseils que Dieu a donné aujourd'hui. Quel est le conseil que Dieu veut donner à l'Église aujourd'hui? Vous connaissez la dernière Église? Vous connaissez la dernière Église dans l'Apocalypse? C'est une Église qui s'est faite avoir. Elle s'est faite avoir par la tiédeur. Voilà, la tiédeur. La tiédeur, c'est un péché terrible, la tiédeur. D'ailleurs, Dieu dit qu'il vomira les tièdes. Vous voyez, ça va loin, ça. Dans l'Apocalypse, chapitre 3, c'est la dernière église qui est citée dans le Testament et qui indique quel sera, d'une manière générale, l'état des églises quand Jésus reviendra chercher sa maison. Apocalypse, chapitre 3, verset 14, c'est l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille. Voyez, la dernière parole avant l'enlèvement adressée à l'Église de Jésus-Christ est pas un ordre, pas une obligation. Le Seigneur ne nous oblige personne, il conseille. On l'appellera le conseiller. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche, que tu achètes des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et bien sûr que tu achètes un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. Je me tiens à la porte, je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Ça sous-entend que lorsque ses conseils sont acceptés, lorsqu'il y a de l'obéissance, le Seigneur nous rassasie. Manger avec le Seigneur, souper avec le Seigneur ne peut pas être considéré autrement que d'avoir son cœur et son âme rassasiés de sa grâce. Voilà ce que Dieu propose ce soir. Je te conseille. Il y a des conseils qui, hélas, seront perdus. Dans la parabole des 10 vierges, dans la parabole des 10 vierges, vous connaissez, c'est une parabole qui indique comment ça se passera lorsque Jésus reviendra chercher l'Église. Beaucoup de chrétiens ne sont pas prêts. C'est une prophétie, ça veut dire que la moitié des chrétiens ne sont pas prêts. C'est quelque chose de fondamentalement grave. La moitié des chrétiens ne sont pas prêts. C'est une prophétie. Les gens ne le comprennent pas, mais Jésus dit, il en sera de même. Lorsque l'Église va être enlevée, lorsque le Seigneur va dire stop, que la grâce est terminée, il y a la moitié des chrétiens qui ne seront pas prêts. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils auront été légers avec les conseils. Dans les églises, normalement, dans toutes les églises normalement constituées, la pensée de Dieu doit être communiquée, et les chrétiens, même si on n'a pas toujours la pensée, mais d'une manière générale, le Saint-Esprit doit inspirer les pasteurs pour que la pensée leur soit communiquée. Cette pensée permet aux chrétiens de se préparer à rencontrer Dieu, dont la parabole des 10 vierges est une prophétie qui est donnée entre deux enseignements sur les pleurs et les grincements de dents, à savoir que beaucoup de chrétiens justement vont connaître ces douleurs atroces de ne pas être prêts parce qu'ils n'auront pas écouté les conseils. Dans la parabole des 10 vierges, il y a quelque chose qui peut nous étonner, il y a un conseil qui est donné. C'est un conseil qui est donné, c'est les vierges sages qui donnent un conseil aux vierges folles. Là, on est dans le cadre de la parabole, bien sûr. Et il dit, allez chez ceux qui en vendent, acheter de l'huile. Mais à quoi il sert ce conseil? Il ne sert à rien. Pourquoi? Parce que c'est trop tard. D'ailleurs, ces vierges folles vont taper, vont frapper à la porte. Et qu'est-ce qu'elles vont s'entendre dire? Je ne vous connais pas. Ce sont des paroles qui font froid dans le dos. Quand on le lit comme ça, que ça fait un petit peu virtuel, que ça fait théologique, que c'est religieux, on a peut-être même l'impression que c'est pas pour nous. Tout ça, ça fait, c'est très, 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 très lointain. Mais mes amis, imaginez-vous que parce qu'on n'aura pas été sérieux avec les conseils de Dieu, c'est ce qui va arriver, eh bien, pour la moitié des chrétiens. Alors ça ne veut pas dire que dans chaque église, il va falloir séparer la moitié des uns et des autres. Mais ça veut dire que sur la terre entière, la moitié des chrétiens ne sont pas prêts. C'est quelque chose de terrible. Il y a des prophéties qui sont terribles. Le Seigneur ne les a pas laissées pour nous faire peur. Le Seigneur nous les a laissées pour nous éclairer. Les conseils de Dieu nous éclairent. Tu me conduiras par ton conseil. Oui, c'est comme ça que ça va se passer. Et normalement, chaque chrétien devrait avoir cette honnêteté de cœur et dire, mais où j'en suis de cette affaire de conseil? Bien sûr qu'après l'enlèvement de l'Église, les hommes qui ne seront pas prêts, qui vont s'attraper les pleurs et les grincements dedans, pourront tout à nouveau revenir à Dieu, mais je peux vous dire qu'ils vont le payer cher. Ils devront passer par des moments d'une extrême douleur parce qu'il y aura un système mondial de dictature qui fera que les chrétiens seront décapités. C'est comme ça. S'ils veulent rester chrétiens. Et ceux qui. Et il y aura. Vous connaissez cette histoire de la marque de la bête là? C'est pas des blagues. C'est ce qui arrivera 3 ans et demi après l'enlèvement, où le dictateur imposera à tous les hommes, tous, riches et pauvres, là, cette fameuse marque sur la main droite ou sur le front. Et ceux qui ne l'accepteront pas, ils seront décapités. C'est écrit. Et ceux qui l'accepteront, ils seront irrémédiablement perdus. C'est écrit. Il n'y aura plus la grâce comme c'est aujourd'hui, 22 août 2017. La grâce, voilà, je comprends que le sang de Jésus-Christ, comme on l'a si bien chanté, me purifie. Le sang de Jésus peut sauver mon âme. Non, là, ça ne sera plus la grâce. Ça sera la colère de Dieu. Et le seul moyen, ça sera de donner sa vie. C'est terrible ce qui va arriver. Et c'est pour ça, achetez de l'huile, achetez-la maintenant. Acheter de l'huile, acheter mes frères et sœurs, bien sûr, c'est une église qui est pauvre, pourtant elle est riche, elle est dans l'abondance, elle fait des œuvres, et gloire à Dieu, lorsqu'un chrétien fait des œuvres, est-ce qu'un chrétien doit faire des œuvres? Bien sûr, un chrétien doit donner, un chrétien doit se donner, un chrétien, il aime se donner, la foi sans les œuvres, elle est morte. Un chrétien ou une église qui ne font pas d'œuvres, c'est un voyant rouge qui s'allume sur la piété de la personne, même si on n'est pas sauvé par les œuvres. Mais il est quand même dit que les œuvres nous suivent, oui ou non? Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivent. Un chrétien, il ne peut pas ne pas faire d'œuvres. Un chrétien qui ne fait pas d'œuvres est un chrétien qui a perdu la communion avec Dieu. On a besoin de faire quelque chose, de faire valoir ce que l'on a reçu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Ça, c'est une question qui devrait tarauder l'esprit de tous les chrétiens. Mais qu'est-ce que je reçois? Qu'est-ce que je reçois? Qu'est-ce que je reçois pour donner autour de moi, dans ma famille, à ma femme, à mes enfants, aux gens que je côtoie? Qu'est-ce que je reçois? Oui, c'est peut-être important de se commencer à réfléchir et de dire, mais peut-être que je suis dans une phase de découragement, tout le temps en train de décourager les autres. Parce que si on est découragé, croyez-moi, on le sait vite. Normalement, on décourage les autres. Passez une semaine avec quelqu'un qui est déprimé. Voilà. Vous renseignez, je vous renseignerai. Voilà. Je vous offre une semaine de congé avec quelqu'un qui est déprimé. Une semaine juste, jour et demi. Et on fera le bilan la semaine prochaine. Vous allez voir comment c'est intéressant. Et la semaine d'après, je vous offre une semaine avec quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Et vous me direz, quelle est la meilleure semaine que vous avez passée? Vous allez me dire, mais c'est ça. Et c'est vrai. Et quand on passe du temps avec le Seigneur, on sait très bien dans quel état d'esprit on va ressortir. Je te conseille d'acheter, et on le voit souvent dans la parole de Dieu. Alors on pourrait dire, mais acheter, mais c'est contraire à la grâce. Mais bien sûr que c'est contraire à la grâce, mais ce n'est pas du tout incompatible. Cela veut dire qu'il y a des efforts à faire. Regardez dans Ésaïe, regardez ce texte, parce qu'on va y revenir. Dans Ésaïe 55, cette parole, elle revient à ceux qui ont soif. La question que je nous pose, elle est là. Est-ce qu'on a soif? Mais soif de bénédiction ou soif de Dieu? C'est une très très grande question, parce qu'il y a deux mondes entre. Ésaïe 55, verset 1er. Dieu sait le chemin sur lequel tu es, mon frère. Dieu le sait. Est-ce que tu le sais, toi, le chemin sur lequel tu es? Est-ce qu'on sait toujours où on en est avec Dieu? Moi, je ne suis pas sûr. Mais Dieu le sait. Ésaïe 55, regardez comment commence ce chapitre. « Vous tous qui avez soif, venez. » Alors, soyons honnêtes. De quoi avons-nous soif? Si on est là, il y a deux possibilités. Ou on a soif de bénédiction, mais ça, tout le monde veut la bénédiction. Même les gens qui ne croient pas en Dieu pourraient dire « Ah ben moi, je veux bien que Dieu me bénisse s'il existe. » Oui ou non? Tout le monde veut être béni. Oui ou non? Donc ce n'est pas la soif de la bénédiction. Quand Jésus a dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive », ça n'a rien à voir avec la bénédiction. Ça a à voir avec sa présence. Vous qui avez soif, c'est de la présence de Dieu, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Voyez bien que c'est facile à comprendre quand même, il n'y a pas besoin de sortir de l'ENA. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme, c'est pas beau ça, votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Si quelqu'un a soif ce soir, mais Dieu le voit, Dieu pourrait dire, celui-là a plus soif que l'autre, celui-là a vraiment soif de ma présence, parce qu'on peut avoir envie d'une étude, on peut avoir besoin de communion fraternelle, on peut avoir besoin d'affection fraternelle, tout ça c'est bien et c'est utile, mais il n'y a que Dieu qui voit quelqu'un qui dans son cœur dit, moi Seigneur, c'est ta présence que je veux, j'ai besoin, j'ai rien, j'ai tout perdu, j'en ai honte, mais vous avez vu, sans argent, sans rien payer, acheter, il y a un effort à faire, le verbe acheter, quand vous voulez acheter quelque chose, vous passez devant une vitrine, vous voyez un habit qui vous plaît, de suite, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez le prix quand même. L'autre fois, je suis passé devant un magasin à Toulouse, j'ai vu une cravate, une belle cravate, je me suis penché, 150 euros, j'ai dit, c'est pas la peine. La cravate, ça fait cher la tonne, hein? Ça fait cher la tonne. Mais il y a un prix à payer. Et quand, mais là, il y a un, c'est merveilleux, mais il n'y a rien à payer. C'est gratuit, mais il y a un effort à faire. Acheter du vin, acheter du lait, pour comprendre le lait. Regardez avec moi dans 1 Pierre. Il faut comprendre, les gens, ils lisent pas la Bible. Moi, je me rends compte de plus en plus que les chrétiens ne lisent pas la Bible. Ça fait qu'ils vivent un petit peu dans la philosophie, là, ils sont dans l'étourderie, dans l'illusion, et c'est très très grave. Regardez, c'est 1 Pierre chapitre 2, verset 2. On va y arriver. 1 Pierre chapitre 2, verset 2. Regardez ce que le Seigneur Jésus dit par rapport au lait, pour comprendre ce que c'est le lait. Désirez, oui, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. La croissance dans le salut. Comme qu'on peut grandir dans la compréhension des choses spirituelles. Voyez, désirer comme des enfants. C'est vrai qu'il y a des choses difficiles pour les personnes mûres spirituelles, mais ce verset est adressé à tous les chrétiens. Tous les chrétiens sont des nouveaux-nés, des personnes nées de nouveau par la repentance et par la conversion et qui devraient désirer le lait spirituel qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est comparable à du lait qui va vous fortifier, qui va fortifier vos os, etc. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, est-ce que vous avez goûté que le Seigneur est bon? Est-ce que vous croyez que Dieu est bon? Mes frères et sœurs, comme Ésaïe, quand Dieu dit, mais si vous avez soif, achetez sans argent, sans rien payer, du vin et du lait, le lait qui fortifiera votre âme, le vin qui est le symbole de la joie. Vous vous rappelez le jour des noces de Cana, il n'y avait pas de vin, il n'y avait plus de vin, mais Jésus était là. Est-ce que Jésus est dans votre vie? Est-ce que vraiment vous réalisez ce que c'est un culte personnel? Un culte ensemble, c'est une chose, mais est-ce que dans votre culte personnel, vous pouvez acheter du vin? Seigneur, moi j'ai besoin de cette joie profonde, de cette joie du salut. Le salut produit de la joie. Même si on est fatigué, découragé, je sais de quoi je parle. On peut être découragé et avoir la joie du salut. Oui ou non? D'ailleurs, quand les apôtres reviennent après une mission super forte et qu'ils disent « Maître, maître, les démons même nous sont soumis en ton nom », Jésus va les calmer et va leur dire « Ne vous réjouissez pas du résultat, réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie ». Et s'il y a bien une chose qui devrait nous réjouir, c'est le salut de notre âme. Est-ce que nous le réalisons, le salut de notre âme? Quand une fois qu'on va être enlevé, je peux vous dire qu'on va certainement le réaliser, puissance 200. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de plus important que d'avoir ce vin, cette joie de l'esprit. Parce que c'est quand même un des fruits de la communion avec Dieu. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, et troisièmement, la joie, c'est une conséquence. Je ne parle pas d'une joie exubérante parce que ouais, j'ai réussi un examen, parce que tiens, oh, j'ai été augmenté dans mon boulot, oh, je suis content parce que sinon, je ne parle pas de ça, ça n'a rien à voir avec quelque chose de terrestre. C'est la joie du salut. Quand Paul est en prison et qu'il dit, je ne sais pas combien de fois aux Philippiens, réjouissez-vous dans le Seigneur, on voit bien que c'est une joie spirituelle. Dans le Seigneur, achetez du vin, achetez du lait. Mes frères et sœurs, est-ce que vous avez de la joie ou est-ce que vous êtes dans une tristesse parce que vous êtes là? Qu'est-ce qui s'est passé en Espagne et la semaine prochaine? Mais n'attendez pas la semaine prochaine, vous allez voir en fin de semaine comment ça va être, et etc. Vous le savez que ces choses vont empirer. Il faut que ces choses arrivent. Il le faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Mais on n'est pas obligé d'y entrer dans l'apostasie. Personne n'est obligé d'y entrer. Vous n'êtes pas obligé d'abandonner la foi. Vous pouvez dire, moi, je resterai avec celui qui donne des conseils. Oui, j'aime l'Éternel, mon conseiller. Tu me conseilles d'acheter du vin. Eh bien, Seigneur, je vais me plonger dans ta présence. J'ai besoin de retrouver cette joie. Je suis tout le temps là. Parce qu'il faut quand même être... Moi, je le sais, j'ai passé cette époque. Tout le temps en train de critiquer. Vous avez jamais passé cette période? Ça vous est jamais arrivé? De critiquer tout. Ça vous est jamais arrivé? Ben c'est bien. Mais je peux vous dire que ça peut vous arriver. Et je peux vous dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous écoutions ses conseils. Quel est le conseil que Dieu a me donné ce soir? Oui, je reçois 100% ce conseil d'Ésaïe 55. Je vais retrouver cette joie que seule ta présence peut me donner. Je vais retrouver cet appétit pour le lait spirituel de la parole, parce que j'ai quand même goûté dans le passé que tu es bon. Qu'est-ce que tu me conseilles d'acheter? Qu'est-ce qu'il me conseille dans l'Apocalypse? Je te conseille d'acheter de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Je te conseille d'acheter, qu'est-ce qu'il dit après? De moi. Vous voyez, c'est toujours dans la présence du Seigneur. On le lit parce que je sais que certains chrétiens ne réalisent pas cette simplicité, cette profondeur en même temps. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Apocalypse 3, verset 18. Je te conseille d'acheter de moi. Vous voyez bien, c'est la preuve qu'on est toujours béni dans la présence de Jésus-Christ. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. Tous les chrétiens peuvent avoir cette richesse spirituelle, cette richesse de grâce, cette richesse de bonté. Quand Job au chapitre 22, venez avec moi dans Job au chapitre 22, il y a là aussi un élément qui nous aide à mieux comprendre ce conseil. Job 22. C'est un conseil vraiment, vraiment qui vaut la peine d'être médité. Job 22, 21 à 29. Vraiment, chez vous, je ressens dans mon cœur qu'il faut que quelqu'un demain matin médite ce texte. Vraiment, pas demain matin, pendant plusieurs jours. Job 22, verset 21. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu y jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction. Mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli. Si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente, regardez bien ce que Dieu demande, jette l'or dans la poussière. Qu'est-ce que c'est ça? L'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux, à tes résolutions répondra le succès. Regardez verset 10, du chapitre 23. Job est dans l'épreuve, là il est vraiment dans l'épreuve. Et regardez ce qu'il dit. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivi, et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Il ne dit pas à ses copains, ses pseudo-amis, il ne dit pas à ses amis, si Dieu m'éprouve, je sortirai plus riche, vous verrez. S'il m'éprouve, je sortirai pur comme l'or. Cet homme, il connaît Dieu, ses amis connaissent la Bible, pas la Bible, ceux qu'ils connaissent de la part, par cœur. Mais lui, il connaît Dieu. Et c'est là ce qui fait la différence dans les églises. Est-ce que vous connaissez la parole de Dieu avec la tête ou est-ce que vous connaissez le Seigneur Jésus avec votre cœur? Et ce conseiller-là jette l'or d'Ophir dans la poussière. Il y a des choses auxquelles on est attaché. Il y a des choses humaines qui nous bousillent la vie, qui nous prennent le temps, qui prennent la place de Dieu. Ça devient des idoles. Il n'y a pas des choses qui peuvent nous pourrir l'existence. Jésus ne dit-il pas que ceux qui reçoivent la parole avec joie, mais les soucis du siècle, les plaisirs de la vie, il n'en parle pas, le Seigneur. Il en parle souvent. Et toutes ces choses feront qu'on ne portera pas du fruit. C'est pour ça qu'il y a des choses qui ont de la valeur. Jetez-les, débarrassez-vous-en et attachez-vous à la présence de Dieu. C'est ça, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. L'or, c'est l'image de l'intégrité devant Dieu. Vous vous rappelez quand Dieu parle à Satan de Job? Franchement, moi j'aurais aimé être dans le ciel ce jour-là. Ouais, franchement. Dieu il pose la question à Satan. Tu as remarqué mon serviteur Job? Vous connaissez l'affaire, hein? Tu as remarqué comment il est, mon serviteur? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Si vous voulez une définition résumée de la richesse spirituelle, elle est là. Il y a un homme qui est intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Voilà où ce que peut en arriver un homme malgré les épreuves qu'il peut rencontrer. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. Job était cet homme. Il avait choisi d'être intègre dans l'immense richesse ou dans l'immense pauvreté. Cet homme, il n'a pas changé de directive, il est resté intègre et droit. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous pouvons acheter cette intégrité. Nous pouvons, dans la présence de Dieu, dire « Seigneur, donne-moi d'être intègre, donne-moi d'être un homme de foi, je veux acheter cet or. » En plus, c'est gratuit. Quand vous voyez le kilo d'or, mais vous pouvez acheter de l'or. Alléluia, demain matin, maintenant, ce soir en rentrant, plutôt que de vous avachir ou de vous endormir devant votre iPad ou devant votre Facebook, il y a des gens qui s'endorment devant leur ordi. C'est leur Dieu. Ils sont là avec leurs 590 amis, comme un jour quelqu'un me disait, « Monsieur Gau, j'ai 832 amis. » Et je dis, « C'est bien. » Et vous arrivez à chatter avec tous, « Non, mais j'ai 832 amis. » Bon, mais je ne sais pas. C'est sûr qu'il faut du temps pour chatter avec. Mais mes frères et sœurs, est-ce que Jésus est votre ami? Est-ce que vous pouvez dire, moi je veux, qu'est-ce que tu me conseilles? Tu me conseilles d'acheter du lait? Tu me conseilles d'acheter du vin? Oui, ce n'est pas incompatible, dans ces temps super difficiles, compliqués, d'avoir la joie du salut. Il y en a peut-être qui pourraient se lever et dire, monsieur Gau, oui, moi je suis dans la joie du salut. Je suis dans l'espérance. J'aime l'Église, j'aime le Seigneur, je reçois, donc je n'ai qu'une chose à faire, c'est de donner. Je te conseille, Jésus ne force pas. Ne vous abîmez pas les cordes vocales en demandant à Dieu qui vous force à faire sa volonté, ça ne marchera jamais. C'est à vous de dire « je vais le faire ». C'est à vous de dire « oui, je vais jeter ces choses qui sont pour moi de l'or, je vais tout ça balancer à la poubelle et je vais me tenir devant le trône de Dieu. Je réexpérimenterai que le Seigneur est bon. Je te conseille d'acheter des vêtements blancs afin que la honte de la nudité ne paraisse pas. Malheur, malheur à tous ces chrétiens qui vont se retrouver nus devant Dieu. » On va lire un texte dans l'évangile de Marc. C'est un texte, moi, qui m'a toujours fait froid dans le dos parce que si c'est écrit, c'est pour qu'on y réfléchisse. Dans l'évangile de Marc, ça s'est passé le jour où Jésus-Christ a été arrêté. Vous savez, il s'est passé plein de choses. Bien des choses n'ont pas été écrites, mais ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction. C'était un disciple, quelqu'un qui suivait Jésus. Regardez cette affaire. Marc 14, verset 47. Un de ceux qui étaient là, tirant l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur. Marc 14, verset 47. C'est Pierre, et lui emporta l'oreille. Verset 48. Jésus, prenant la parole, leur dit, « Vous êtes venus, comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais cela s'est fait accompli, afin que les Écritures soient accomplies. » Alors, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Regardez bien. Un jeune homme le suivait. N'ayant sur le corps qu'un drap, on se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. C'est une histoire pathétique. Ça s'est vraiment passé dans le jardin de Gethsémané. Un homme qui suivait Jésus et qui s'est retrouvé tout nu, ou entièrement, ou presque nu. Parce que nous souvent on dit tout nu, c'est tout nu, mais quand dans la Bible, ça ne veut pas forcément dire tout nu. Il s'est trouvé avec le minimum. Que de chrétiens vont se retrouver nus devant Dieu, afin que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et alors que le Seigneur nous propose gracieusement d'acheter des vêtements blancs. C'est un commandement qui revient souvent dans l'Ecclésiaste, il est dit « Quand tout temps tes vêtements soient blancs ». Quand tout temps, c'est un conseil, voilà, Dieu ne vous obligera pas, ne nous obligera pas à nous sanctifier, à nous purifier, c'est à nous, même si sur la marche, il arrive, comme c'est dans Jean chapitre 13, lorsque Jésus a lavé les pieds aux apôtres, vous vous rappelez quand Jésus a lavé les pieds, il leur a lavé que les pieds. Pourquoi ? Eh bien parce que dans la marche de tous les jours, nous nous salissons. C'est une chose de se salir les pieds, et ça n'est une autre que de se souiller entièrement. Ça n'est une autre dans le cadre de la marche normale de se salir un peu, et ça n'est une autre de vivre continuellement dans le péché. Et Jésus a donné cet ordre de que nous nous lavions les pieds les uns les autres. C'est pour ça que c'est important de vivre dans la pureté, dans la sainteté, que nous nous exhortions les uns les autres à vivre dans l'obéissance. Et Jésus a terminé le chapitre en disant « Vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez ». Mes frères, on est heureux dans une église quand on s'exhorte les uns les autres, quand on se fait du bien. Et il faut que l'on soit blanc. Je te conseille d'acheter des vêtements blancs afin que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Beaucoup de vierges folles, de chrétiens légers, ils suivent le Seigneur. Ils vont même jusqu'à Gethsémané. Vous voyez, c'est une image que des gens qui l'ont quand même suivi presque jusqu'au bout. Et pourtant, quand une épreuve se présente, ils se retrouvent tout nus. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils n'ont pas été sérieux. La Bible nous demande de nous revêtir des vêtements du salut. Est-ce que c'est écrit que si nous sommes dans sa présence, il nous revêtira de vêtements de louange, de vêtements de sa justice, du manteau de la délivrance. Est-ce que Paul n'a pas dit « Revêtez-vous même de toutes les armes de Dieu ». C'est à nous de le faire. Jésus ne dit pas « Je vais vous revêtir ». La Bible dit « Revêtez-vous de ces vêtements. Revêtez-vous du manteau de la délivrance ». Lorsqu'un homme se présente dans la présence de Dieu, quand nous restons longtemps dans la présence de Dieu, pas longtemps pour rester longtemps, mais longtemps parce qu'on aime se retrouver dans la présence de Dieu. C'est sûr que si vous jouez la montre, bon, qu'est-ce qu'il a dit ? Ben, il a dit qu'il fallait rester longtemps dans la présence de Dieu. Ben, longtemps c'est quoi ? Ben, c'est une heure. Bon, ben, reste une heure et demain c'est une heure. Alors, je vais rester une heure dans la présence de Dieu. Bon, ça fait que 2 minutes. Non, mais si c'est ça, c'est qu'il y a un problème. Ça, on est dans la méthode, ça va pas. Mais quand on aime le Seigneur, est-ce qu'on n'a pas envie de rester dans sa présence ? Je te conseille d'acheter des vêtements blancs. Mes frères et sœurs, beaucoup de chrétiens vont rester collés sur la terre. Et il va y avoir des pleurs et des grincements dedans. Alors que toute notre existence, pendant 2000 ans, Jésus n'aura pas cessé de dire à tous les hommes de la terre, achetez de moi, achetez, je te conseille, c'est un conseil. Je l'ai dit, on n'est pas dans une secte, on est dans l'église. Dans l'église, si vous êtes dans une église où on vous oblige, vous êtes dans une secte. Jésus n'a jamais obligé quelqu'un. Et même si un des fils de Noé avait dit avant de monter dans l'arche, oh non, moi le bateau, non, d'ailleurs j'aime pas le bateau. Est-ce qu'il aurait pu décider de partir ? Ben oui. Les gens sont libres. Quand les anges ont décidé de se désolidariser de la présence divine, il fallait y penser déjà. Est-ce que Dieu les a empêchés ? Non. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient et ce sont devenus des démons et le jugement les attend. D'ailleurs, c'est nous qu'on les jugera, enfin, les chrétiens spirituels. Est-ce que c'est écrit ? Est-ce qu'il y a un verset qui dit que ne savez-vous pas que vous jugerez les anges ? Est-ce que c'est écrit ? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Si vous êtes spirituel, vous ferez faire certainement partie de ces gens qui jugeront les anges. Bien sûr que vous aurez connaissance du dossier de chacun, ça c'est sûr. Je ne rigole pas. C'est écrit. Vous voyez qu'il y a bien des choses qui nous dépassent. Est-ce que ça ne vaut pas la peine de régner avec le Seigneur ? Mes frères et sœurs, le Seigneur, il nous conseille. Et si vous êtes pauvre, ben, soyez honnête. Si vous êtes pauvre spirituel, il y a des gens, ça fait mal au cœur. Ils ont 20 ans de conversion, 30 ans de conversion. Vous parlez avec eux, au bout de 10 minutes, vous avez envie que d'une chose, c'est de partir. Pourquoi ? Parce qu'ils sont pauvres. Mais gloire à Dieu, tous nous pouvons être riches. Quand Paul prie, tout d'un coup, il s'arrête de prier. Lorsqu'il parle aux chrétiens d'Éphèse, il dit « Mais je prie pour que Dieu illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est la richesse de votre appel, quelle est l'infinie grandeur de sa puissance. » Est-ce que vous croyez que Dieu a la possibilité de vous enrichir ? Est-ce que vous pouvez recevoir cette intégrité qui fera que peut-être quand vous passerez devant Dieu, Dieu pourra dire, tiens, tu as vu mon serviteur, est-ce qu'il connaît nos prénoms, le Seigneur? Il n'y avait personne comme lui sur la terre. Vous aimeriez entendre un truc de ce genre? Est-ce que c'est possible?
Ben oui.
Ça dépend de qui?
De nous.
C'est un choix. Je te conseille. Vous avez vu cette interminable bénédiction? Si tu ouvres la porte, je souperai avec toi. Et moi avec toi, et toi avec moi. Ça veut dire, dans le grec ça, ça veut dire que même si on n'a pas grand-chose à amener, lui, il a tout à sa disposition. Vous croyez que les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau? Mes frères et sœurs, pourquoi on est là? On est là parce que, Seigneur, oui, tu me conduiras par ton conseil. J'ai besoin d'un conseil. J'en ai marre d'être toujours bloqué. Je voudrais terminer ma course en étant une source de bénédiction. Est-ce qu'on peut fermer les yeux quelques instants? Je ne sais pas où vous en êtes, mais je peux vous dire que Dieu le sait. On va rester les yeux fermés. Je voudrais que on puisse chanter ce petit cœur. C'est ta présence, Seigneur. C'est ta présence, Seigneur, que je veux. Nous restons recueillis. Mes frères et sœurs, il y a des moments, ça prend des fois quelques instants. Mais il faut répondre au Seigneur. Je ne sais pas où vous en êtes. Je ne sais pas si vous êtes froid, tiède. Peut-être que vous ne le savez même pas. Mais c'est possible. Mais soyez honnête, dites, Seigneur, je ne sais même pas dans quel état. Ce que je sais, c'est que je suis tout le temps en train de râler. Si vous êtes tout le temps en train de râler, laissez-moi vous dire que ce n'est pas bon. Mais est-ce que ce soir, Dieu peut délivrer quelqu'un? Comme Dieu délivre de l'alcool, comme Dieu délivre du tabac, comme Dieu délivre de la pornographie, je ne sais pas, moi, Dieu délivre de tout. Est-ce que Dieu peut délivrer de la tiédeur? Et s'il y a quelqu'un qui dit, Seigneur, c'est ta présence que je veux. Je veux, peut-être tu vas revenir bientôt, très bientôt. Peut-être que tu vas me reprendre très bientôt. Il n'y a pas quelqu'un qui dit, moi je veux être riche. Je parle bien de la richesse spirituelle. Le lait spirituel, le vin spirituel, cette huile qui met bien sûr, vous savez, de cette grâce dans tous les rouages, cet or d'intégrité, revêtu de vêtements blancs, je veux, je sais que le Seigneur me revêtira de vêtements blancs éclatants, de lin pur, etc. Mais je veux être dans cet état quand tu vas revenir. Il y a peut-être quelqu'un qui dit, mais moi, il faut qu'on prie pour moi. Ce soir, c'était un rendez-vous avec Dieu. J'ai besoin de délivrance. Il me faut jeter cet or dans les torrents, cet or humain, ces trucs qui m'empêchent de m'enrichir. Cet ordinateur, ce téléphone, ce Facebook, je sais pas, vous le savez. Mais mes frères et sœurs, rien n'est impossible à Dieu. Alors pendant qu'on chante ce cœur, si quelqu'un a besoin de délivrance, d'attouchement, si quelqu'un a besoin de dire, mais Seigneur, touche-moi à nouveau, vraiment, touche-moi, il faut que je sois cet homme de Dieu, avec ma femme, il faut qu'on soit ce couple de Dieu. Oui, Dieu le fera. Vous croyez que Dieu va vous laisser sur le carreau? L'Éternel est mon conseiller. Et si vous acceptez ses conseils, vous recevrez ces choses, ou alors Dieu est un menteur. Mais vous savez ce qu'il en est. C'est ta présence, Seigneur, que je veux.